Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. C'est parti pour une demi-heure ensemble dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. Au sommaire, les entreprises qui s'investissent dans la parentalité des salariés. En allant plus loin que ce que prévoit la loi, on va en parler avec la DRH d'Amazon France qui a développé quelques chantiers qui vont dans ce sens. Dans cette émission, on répond aussi à toutes les questions que vous nous adressez avec nos avocats et avec vous, Jeanne. Bonjour.
Bonjour Erwan. Aujourd'hui, on répond à une question sur les modifications de contrat de travail. Que peut faire ou ne pas faire l'employeur? C'est l'avocate Sabrina Gapteni qui répondra à cette question. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Vous voulez être augmenté, mais vous n'osez pas demander. Alors, il faudra être là dans une dizaine de minutes parce qu'on va essayer d'apporter quelques solutions et quelques conseils dans notre focus. Et puis, en fin d'émission, dans le Labo RH, on va faire le point sur les compétences qui vont être nécessaires cette année pour accompagner la transformation des entreprises. Nous serons avec le patron France de Coach Hub. Voilà le programme. Merci d'être avec nous. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Bonjour Catherine Chilansky.
Bonjour.
Merci d'être dans Happy Boulot, vous êtes DRH d'Amazon France. On cherchait une entreprise exemplaire, en tout cas en avance sur la question de la parentalité. Il se trouve que c'est un dossier que vous avez décidé de traiter en particulier chez Amazon, puisque depuis l'année dernière, en plus des congés légaux, vous permettez aux nouveaux pères et mères de prendre un congé parental qui est payé à 100%, ça part d'où déjà cette démarche?
La première chose, c'est qu'effectivement, à Amazon, on est une entreprise qui est extrêmement investie sur la démarche de parité, de diversité, et on est très attentif au bien-être de nos salariés. Donc effectivement, comme vous le mentionniez, on a décidé d'offrir à tous nos salariés, père et mère, et je pense que ça, c'est très important.
Donc en France?
En France, oui. Et dans le monde entier.
Ah oui.
Et sur nos activités à la fois vente en ligne et sur nos activités logistiques. Donc effectivement, pour l'ensemble de nos salariés, pères et mères, un congé supplémentaire de 4 semaines qui est rémunéré par Amazon. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs dispositifs en fait qui coexistent. Il y a le congé légal de 16 semaines pour les femmes et puis de 28 jours pour les pères. Et effectivement, nous, on vient ajouter à ce congé légal un congé de 4 semaines entièrement rémunéré par Amazon.
C'est une manière de vivre avec son temps aussi. Les mentalités sur la maternité, la paternité ont changé ces derniers temps. C'est ça, c'est aussi une prise de conscience, s'adapter aux nouvelles manières d'être.
Oui, en fait, je pense qu'il est important d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans cette étape hyper importante de vie, qui est la naissance ou l'adoption d'un enfant. Et ça permet aussi de réduire la charge mentale, parce qu'en fait, un congé légal, c'est assez court. Et pouvoir bénéficier de 4 semaines supplémentaires, ça permet de pouvoir mieux s'organiser également.
C'est des expériences personnelles aussi qui font prendre conscience que ça, et que ça peut aussi être une bonne idée pour les salariés, mais pour l'entreprise, d'accorder plus de temps familial dans ce moment-là précis de la vie.
Ce qui est clair, c'est quand on interroge nos salariés, hommes et femmes, déjà ce qu'on constate, c'est qu'aussi bien les hommes que les femmes prennent ce congé supplémentaire, et effectivement, oui, les retours qu'on a par rapport à ça sont excellents.
Donc il n'y a pas d'hésitation à bénéficier de ce congé que vous proposez?
Non, oui. Et franchement, ça c'est quelque chose qu'on observe à tous les niveaux de l'entreprise. Ce qu'il faut voir, chez Amazon, en France, on est 20 000 salariés en contrat à durée déterminée, indéterminée, pardon. Donc on est le premier créateur net d'emploi en France. On est à parité sur l'ensemble de nos effectifs, c'est-à-dire qu'on emploie à l'heure actuelle 10 000 femmes, 10 000 hommes. Et effectivement, ce congé est extrêmement apprécié et pris par les pères comme par les mères.
Bon, comme quoi ça fonctionne,
oui.
Ça a du succès. Avec le congé de naissance qui a été voulu par Emmanuel Macron, ça change quelque chose dans votre organisation? C'est-à-dire que ça vient s'ajouter encore au dispositif légal?
Alors, le congé sur lequel Emmanuel Macron souhaite porter des réformes, c'est le congé parental d'éducation. Donc, qui vient s'ajouter normalement au congé légal et qui vient s'ajouter au congé supplémentaire que nous offrons, nous, Amazon, à tous nos salariés pères et mères.
Ce congé parent. Beaucoup de congés,
Alors, on verra. Après, l'observation qui est faite, fait, c'est que ce congé parental d'éducation, qui a une durée pouvant aller de 1 à 3 ans, est assez peu pris parce qu'il est faiblement rémunéré par la caisse d'allocation familiale. Donc on verra, on va voir quelles sont les propositions qui sont faites par le gouvernement. Et nous, en tout cas, on continuera à offrir notre congé supplémentaire.
Ouais, vous, c'est une rémunération maintenue à 100%.
Nous, c'est une rémunération maintenue à 100%, tout à fait.
Je voyais que vous avez aussi mis en place un congé de 10 semaines pour un arrêt suite à une fausse couche, qui n'est donc pas un arrêt maladie.
Non, absolument. On a souhaité accompagner nos salariés femmes sur ce type d'événement.
Donc c'est uniquement pour les femmes, celui-ci.
Oui, en cas d'interruption de grossesse. Et effectivement, on leur propose de pouvoir bénéficier d'un congé de 10 semaines pour pouvoir se remettre de cet épisode.
Catherine Chilansky, DRH d'Amazon France. Il faut former aussi les managers à toutes ces questions-là de parité, alors de bien-être au travail, c'est un mot aussi, enfin, notion un peu galvaudée, mais mine de rien, qui est au cœur aujourd'hui de la préoccupation des salariés et des directions d'entreprise. Mais il faut former aussi les managers à toutes ces notions-là.
Oui, alors on a plusieurs types de formations. On a des formations sur les stéréotypes et sur les biais inconscients. C'est-à-dire qu'en fait, on forme tous nos managers et tous nos salariés aux croyances limitantes qui nous font dire que des personnes qui n'auraient pas la même éducation, les mêmes origines, on les connaît pas et on a du mal à travailler avec elles. Donc on forme vraiment nos managers et nos salariés à ces biais inconscients de façon à ce qu'on puisse avoir une atmosphère de travail et un environnement de travail qui soit sécure pour chacun, dans lequel chacun puisse et chacune puisse s'exprimer librement et avec respect. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quand même été certifié top employeur pour la 5e année consécutive. Mmh. Et je crois que ça, c'est une véritable reconnaissance de la robustesse de nos pratiques RH et de la qualité de notre environnement de travail. Mmh.
Top employeur pour la 5e année consécutive, c'est une manière aussi pour vous de faire taire les critiques, puisqu'on sait que l'entreprise a quand même été régulièrement décriée pour son management. On l'a vu à travers des grèves, des manifestations, des articles dans la presse. Pour vous, ça dit quoi ce...
Alors, la certification top employeur, elle est faite par un organisme indépendant. Nous, on soumet nos politiques RH, on soumet les avantages sociaux qu'on donne à nos salariés, dont ce fameux congé supplémentaire, notre culture d'entreprise, nos manières de recruter. Et force est de constater qu'on a été certifié pour la 5e année consécutive.
La semaine dernière, je rebondis là-dessus, parce que donc, c'était le 28 février, c'est le Parlement européen qui a retiré les accréditation des lobbyistes d'Amazon. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a refusé de participer à des auditions sur les conditions de travail dans ses entrepôts. De l'extérieur, malheureusement, ça donne l'impression qu'il y a des choses à cacher. Est-ce que le message, il n'est pas un peu flouté d'une certaine manière ? D'un côté, vous êtes top employeur pour la 5e année consécutive. De l'autre côté, quand le Parlement européen demande à pouvoir accéder à la manière dont on travaille dans les entrepôts, on a l'impression que là, vous faites un peu barrage.
Alors, je suis DRH France, donc je ne m'occupe pas de l'Europe ni des relations avec le Parlement européen. On a des visites régulières de nos entrepôts. Notre préoccupation c'est d'assurer la sécurité de nos salariés. On a investi 25 millions d'euros en 2022 sur la sécurité de nos salariés. On a mené une étude indépendante par l'IFOP auprès de nos salariés. 9 salariés sur 10 chez Amazon se déclarent se sentir en sécurité au sein de nos sites de distribution. On forme tous nos salariés au fait de ne pas recommencer des gestes répétitifs. Il y a des rotations de rôles. Ils sont formés à tous nos processus. Donc, je pense qu'en tant qu'employeur, on n'a pas à rougir de nos politiques de ressources humaines.
Les témoignages réguliers qu'on a de salariés qui parlent de détresse psychologique, des grèves que j'évoquais, ça pour vous, c'est quoi ? C'est en fait... propre à une très grande entreprise comme Amazon, et il n'y a pas une spécificité Amazon en fait là-dessus ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il peut toujours y avoir des mouvements de mécontentement, mais encore une fois, ce n'est pas spécifique à Amazon particulièrement.
Pour revenir juste d'un point sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur les congés et la manière dont on s'adapte aussi pour faire respecter cette parité, ce nouveau volume de congés, ça demande une réorganisation du côté des RH chez vous, parce que plus on a de congés, plus les salariés sont absents. Donc j'imagine que c'est une réorganisation aussi dans...
Non, je pense que ça demande surtout beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation, beaucoup de bienveillance. Et de transparence. Moi, en tant que DRH, je suis très très attentive au moment du congé en maternité, ouais. du départ en congé de maternité, à ce que tous nos managers aient des discussions avec les salariés de façon à préparer leur départ en congé de maternité et préparer leur retour. On fait parfois appel à de la mobilité interne, donc on demande à des salariés de venir prendre de façon temporaire le rôle de la personne qui part en congé maternité, de façon à assurer un bon équilibre de la charge de travail. On demande aussi à nos salariés ce qu'elles souhaitent. Moi, j'ai en tête le cas d'une salariée qui avait souhaité changer de poste à son retour et auquel on a fait passer des entretiens avant son congé, de façon à ce que quand elle rentre, elle ait un nouveau rôle. Donc je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se font par la discussion, parce que finalement, une maternité, c'est beaucoup de charge mentale. Par la discussion, je pense qu'on désamorce énormément cette charge mentale.
Merci pour vos réponses, Catherine Chilansky. Il nous reste une minute, c'est Corentin qui nous amène tout de suite la boîte du DRH dans laquelle je vous invite à piocher. Alors, pas deux aujourd'hui, mais un, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement.
D'accord.
Un papier, une phrase à compléter pour savoir un peu mieux quel DRH vous êtes.
Alors,
je vous laisse nous la lire.
Dans ma boîte, la semaine de 4 jours, c'est peut-être une possibilité.
C'est sur la table ou pas encore? C'est un sujet que beaucoup d'entreprises ont commencé à apprendre. Certains le testent. Vous en êtes où là-dessus?
Alors, nous, ça fait partie des propositions qui sont évoquées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, oui. Avec nos syndicats, mais qui sont à l'heure actuelle en cours de discussion.
Pour l'instant, c'est de la discussion. Pas d'annonce à faire là-dessus. La prochaine fois, peut-être.
Exactement.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Catherine Chilansky, DRH d'Amazon France. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on vous retrouve, Jeanne, pour appeler notre expert. Les réponses à vos questions.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on joint tout de suite l'avocate Sabrina Gapteni pour répondre à cette question. Mon employeur peut-il modifier mon contrat de travail sans mon accord, notamment mes missions et mon lieu de travail?
L'employeur ne peut pas faire de changement important sans votre consentement. On parle de changement important lorsqu'il s'agit de revoir votre rémunération, vos missions ou votre lieu de travail. Il s'agit des éléments essentiels de votre contrat, car leur modification peut avoir des conséquences importantes sur votre vie personnelle. L'employeur qui veut y procéder doit obtenir votre accord écrit. Mais pour ce qui concerne le lieu du travail, il y a des cas dans lesquels le contrat contient une clause de mobilité géographique, qui permet à l'employeur de vous faire travailler dans un autre lieu, parfois lointain, par rapport à ce lieu auquel vous étiez affecté. L'employeur en a le droit, à partir du moment où il s'agit du même secteur géographique. Si vous avez signé le contrat, c'est que vous l'avez accepté. Il vous faut donc lire très attentivement votre contrat de travail et bien le comprendre. C'est la seule façon pour vous de savoir si votre employeur respecte vos droits.
Merci Sabrina Gapteni, avocate et fondatrice d'Avocats Justes. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
Vous voudrez bien être augmenté, mais vous ne savez pas comment faire. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Près d'une salariée sur deux, on parle des femmes, n'a jamais demandé d'augmentation durant sa carrière. Ce chiffre-là, c'est vous qui nous l'apportez, Charles Chantala. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, spécialiste du recrutement chez Indeed. On va revenir sur ce chiffre qui est quand même hallucinant. Avec nous aussi, Aurélie Feld, bienvenue.
Merci.
Vous êtes
Bonjour.
La présidente de LHH France, qui dispose d'un observatoire de la performance sociale et des rémunérations. On va parler de ça aussi avec vous. Vous allez nous faire un point sur les négociations salariales en ce début d'année. Mais d'abord, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une chose? Les Français et les Françaises sont vraiment nuls pour négocier. Charles.
Alors,
parce que c'est ce que vous nous dites avec votre étude. Hein.
Alors, d'une manière générale, on a une frustration encore aujourd'hui en cette veille de 8 mars de voir des femmes qui s'estiment encore sous-payées bien souvent et qui, c'est vrai, dans une certaine mesure, disent moi-même, j'ai pas osé récemment aller demander une augmentation. Mais c'est d'autant plus le cas en France. C'est vrai qu'on a fait une étude qui était sur 11 pays différents. Et de tous ces pays, c'était la France qui, peut-être à cause de notre rapport à l'argent, mmh. ou une certaine pudeur en tout cas sur ce sujet, où on trouvait les chiffres les plus élevés, disons, les plus hauts pourcentages de personnes n'ayant pas demandé d'augmentation dans les dernières années.
Aurélie Feld, comment vous regardez ça,
Ce qui m'a manqué un peu dans votre étude, en fait, c'était la comparaison entre les hommes et les femmes. Je me suis dit, c'est super d'aller comparer les femmes entre elles, mais finalement, est-ce qu'elles sont très différentes des hommes ? Donc j'ai cherché de mon côté des chiffres aussi, et j'en ai trouvé qui montrent, c'est un sondage Opinionway pour Altaïs en octobre 2021, qui montre qu'en fait les hommes n'ont pas une plus forte propension à aller demander une augmentation que les femmes, par ailleurs ce qui les bloque en premier lieu, c'est le manque de confiance.
Vous parlez des femmes là.
Non, je parle des hommes
des
et
hommes
des femmes.
Aussi. Ah d'accord.
C'est exactement. Donc, il n'y a pas de distinction. Ouais. Dans le sondage Opinionway, il y a seulement 53% des hommes et 49% des femmes qui ont l'intention de demander une augmentation cette année. Et quand on leur demande pourquoi, pour quelles raisons ils n'osent pas demander une augmentation, ils répondent à 30% pour les hommes et 33% pour les femmes. Vous conviendrez avec moi que c'est pas très très différent statistiquement. Que c'est le manque de confiance qui les incite à ne pas demander une augmentation. Donc finalement, entre les hommes et les femmes sur ce sujet-là, il y a pas de différence, et ça m'a rassurée parce que je me suis dit en fait que le risque avec votre étude, c'était un peu de faire porter la responsabilité aux femmes de l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes, et quand on voit que pour les hommes finalement c'est la même chose, ça réconforte, voilà.
Ouais,
Que les femmes d'ailleurs.
Non, justement parce que on est à la veille de ce 8 mars qui est quand même l'occasion de souligner à la fois les progrès qui ont pu avoir lieu, mais aussi les difficultés qui restent à surmonter. Et en réalité, on se rejoint parce que ce que cette étude dit quand on l'a dans son intégralité, c'est que là où il y a eu le plus de progrès, ou en tout cas les mêmes difficultés pour les hommes que pour les femmes, c'est plutôt effectivement sur cette question de la négociation salariale ou le fait d'aller réclamer. Et d'ailleurs, vous avez raison, il y a cette question bien sûr de la confiance, mais il y a aussi, on voit en France la réalité du décalage par rapport à d'autres pays, c'est aussi qu'on n'a pas eu l'opportunité de la demander. Sous-entendu, une culture peut-être moins établie, et là c'est la responsabilité des entreprises, de mettre en place au moins une fois, deux fois par an, un moment où je vais pouvoir parler de mes progrès, de mon développement personnel et peut-être de ma rémunération. Mais en réalité, on a beaucoup progressé du côté du salaire. On voit d'ailleurs que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes à poste égal n'est plus que de 4%. Là où il y a encore un travail considérable à faire, et il ne porte pas sur les épaules des femmes, il porte sur des biais inconscients sans doute et la manière dont on perçoit la place des femmes en entreprise, c'est qu'elles n'occupent pas les mêmes postes encore aujourd'hui.
Avec des disparités en fonction des secteurs ou pas, ça on le constate. Vous parlez des 4% d'écart de salaire. Ça va dépendre vraiment, ça va aller du simple au double
Erwan, si je peux me permettre. Il y a trois chiffres importants sur les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. Il y a d'abord 24,4%. C'est l'Observatoire des inégalités qui a publié ces chiffres le 4 mars. Donc vraiment, ils sont tout frais. 24,4% d'écart, si on prend l'ensemble des salaires en France des hommes et l'ensemble des salaires en France des femmes, sans prendre en compte les temps de travail, il y a 24,4% d'écart
en
moyenne.
Ça dépend quoi de si on regarde la moyenne, la médiane.
Après, il y a un deuxième chiffre, c'est 15,6% si on rebase sur un temps plein. C'est-à-dire que si on prend tous les salaires de France des hommes et des femmes en équivalent temps plein, là on n'a plus que 15,6% d'écart. Donc ça montre qu'une partie de l'écart s'explique par le temps partiel subi par les femmes. Et ensuite, si on regarde à poste équivalent, là effectivement il n'y a plus que 4,3-4,4%. En revanche, ce que l'Observatoire des inégalités observait, je crois que c'était l'année d'avant ou peut-être même en 2021, c'est que plus les salaires augmentent, donc plus on monte dans les déciles de salaire, plus les écarts se creusent. Et dans le dernier décile, donc dans le top 10 des Français les mieux payés, il y a 17% d'écart entre les hommes et les femmes.
Ah oui. Charles mentionnait le fait qu'on manque peut-être de temps dédié justement à la rencontre entre le manager et le salarié pour discuter de ces sujets-là qui sont très importants, de la rémunération. On a les NAO qui sont obligatoires à partir du moment où on a quoi, plus de 50 salariés dans l'entreprise. Mais au-delà de ça, en fait, l'employeur n'est pas tenu de rencontrer les salariés, les collaborateurs plus d'une fois par an. Est-ce qu'il faut impulser ces moments-là pour justement pouvoir discuter d'argent?
Alors, si on est toujours sur la résorption des inégalités entre les hommes et les femmes, je pense que les NAO, c'est quand même un bon moment pour s'asseoir avec les organisations syndicales et se poser la question de quelle partie de l'enveloppe des NAO va être consacrée au rattrapage des inégalités, puisque aujourd'hui, l'ensemble des entreprises publient, enfin en tout cas des grandes et puis bientôt des plus petites, publient leur indice égalité homme-femme. Et donc, ça permet d'objectiver un peu les écarts de rémunération et ça permet donc de négocier un bout d'enveloppe. Après, une fois qu'on a dit ça, le collectif ne peut pas tout. Et effectivement, on dit souvent que le moment de l'entretien annuel, c'est pas le bon moment pour négocier sa rémunération. Mais en fait, on peut se poser la question de savoir quand est ce bon moment et même s'il existe. Et si parfois l'employeur ne cherche pas à éviter ce bon moment pour ne pas avoir besoin d'avoir cette discussion et potentiellement de décevoir son collaborateur qui aurait bien envie d'une augmentation.
C'est l'impression qu'on a aussi ou pas, on esquive un petit peu ces moments-là.
En tout cas, manifestement, oui, les salariés français ont un peu plus le sentiment qu'on botte en touche ce sujet, un petit peu plus qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni. Alors, c'est marrant, mais comme par miracle, ce sont plutôt dans les pays où la tension du marché du travail est très importante, où le chômage est bas, qu'on trouve un petit peu moins de frustration. C'est-à-dire que là, les employeurs sont contraints à des transformations dans le bon sens, c'est-à-dire un peu plus de conversation sur et un peu plus de transparence aussi sur les salaires. C'est un des facteurs aussi de résorption des inégalités. Il faut au moins savoir que je suis moins bien payé potentiellement pour pouvoir me défendre. Et là, que peu importe à quel poste, la France est également un pays où cette transparence des salaires n'est pas encore
complètement
intégré dans notre culture. C'est quelque chose qui commence à arriver, mais on voit déjà des États américains où c'est obligatoire.
Aurélie Feld.
Effectivement, c'est ce que je veux dire. Enfin, plus généralement, le rapport à l'argent est quand même assez différent en France et dans les pays anglo-saxons.
Ah oui.
On est beaucoup plus discret sur ces questions-là et je pense que ça s'étend assez naturellement aux questions des rémunérations. Aux États-Unis, on peut demander à son collègue combien tu gagnes et ça pose de problème à personne. Mmh. En France, c'est totalement incongru, voire même impensable.
Mais ça sera sûrement toujours le cas, non ? Enfin, c'est vraiment
alors,
une différence culturelle.
Sauf si on essaye de faire des avancées, soit par la négociation collective, soit par le droit plus généralement, sur la transparence des rémunérations. On pourrait envisager que, par exemple, les annonces d'emploi ne puissent être postées qu'avec une fourchette de rémunération.
Ouais, ça, c'est,
Ou que les entreprises soient obligées de faire une forme de transparence, peut-être pas en termes de rémunération personne par personne, mais en termes de bande de salaire pour les différents rôles qu'ils ont.
D'autant, alors, c'est l'exemple que vous venez de citer, c'est quelque chose qu'Indeed a typiquement imposé à tous les employeurs aux États-Unis, puisqu'on sent que c'est un pays qui est beaucoup plus avancé sur ce sujet. Et c'est quelque chose qui va sans doute arriver sur Indeed dans les prochaines années progressivement, en fonction de la culture et de l'habitude des recruteurs ici. En attendant, on recommande systématiquement à tous les recruteurs de le faire quoi qu'il arrive, au moins, si ce n'est pas pour la bonne cause, mais au moins de le faire dans leur propre intérêt, puisque de toute façon, une offre d'emploi qui mentionne ne serait-ce qu'une fourchette de salaire est beaucoup plus populaire du point de vue des candidats qu'une offre d'emploi qui n'en mentionne pas.
Eh oui.
Peu importe si le salaire est compétitif ou pas, le simple fait d'être transparent, ça joue en faveur du recruteur.
Et c'est une demande aussi de la part des candidats, hein, de savoir, d'avoir la fourchette. Ouais. Enfin, c'est quand même un élément essentiel quand on veut postuler. Rapidement, pour terminer, Aurélie Feld, vous avez publié cette enquête sur les NAO 2024 au mois de janvier. On sait qu'en 2023, on a profité, avec l'inflation d'augmentation record, au global dans les entreprises. Ça va être différent cette année. On parlait aussi des enveloppes pour rééquilibrer les différences de rémunération entre les hommes et les femmes. On s'attend à quoi ? À des choses moins élevées pour l'année 2024 ?
Effectivement, d'une manière générale, les NAO seront ou ont été, parce que certaines sont déjà terminées, moins généreuses pour cette année 2024 qu'elles ne l'ont été en 2023 et même en 2022.
Donc on mise plus sur des augmentations individuelles que sur des augmentations collectives, par exemple ?
Pour les non-cadres, il y a toujours un volant relativement important d'augmentation collective, ne serait-ce que parce que même si l'inflation reflue progressivement, elle reste quand même assez forte. Pour les cadres, effectivement, on mise essentiellement sur les augmentations individuelles. Les enveloppes totales sont aussi un peu plus faibles, avec peut-être une exception qui est l'industrie. Dans l'industrie, les enveloppes restent relativement fortes parce qu'il y a des vrais sujets de recrutement pour réindustrialiser la France. Et puis, il y a pas mal de jobs industriels qui sont en fait des jobs pénuriques. Et donc ça nécessite un petit effort particulier de rétention. Voilà.
On reparlera rapidement de tous ces sujets qui intéressent beaucoup nos auditeurs, téléspectateurs dans Happy Boulot. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette discussion très intéressante avec vous, Aurélie Feld. Merci, présidente de LHH France, et Charles Chantala, spécialiste du recrutement chez Indeed. Merci d'avoir été avec nous. C'est du Labo RH.
Happy Boulot, le Labo RH.
Et Jeanne est de retour en 4 minutes. Jeanne, aujourd'hui avec notre invitée qui accompagne la transformation numérique des entreprises.
Oui, bonjour. Nous sommes avec Boris Alanik. Bonjour Boris.
Bonjour.
Vous êtes directeur général France de Coach Hub, une plateforme de coaching digital pour les entreprises. Votre but, c'est de coacher les collaborateurs à plusieurs niveaux. allant de l'accompagnement de la transformation numérique, par exemple, au développement des soft skills.
C'est parfaitement exact.
Donc le coach a tout faire dans l'entreprise.
Alors le coach a tout faire, le coach a accompagné beaucoup d'enjeux de transformation qu'on peut observer, notamment transformation de culture du leadership, transformation technologique, entre autres.
C'est du coup pour toutes les entreprises, grandes, petites, peu importe le secteur, comment ça fonctionne ?
Alors, le coaching peut s'adresser à tous les types d'entreprises. Chez CoachUp, en revanche, on fait principalement l'effort et l'accompagnement des grandes entreprises, puisqu'on cherche à accompagner le plus de nombre de managers possible pour avoir un impact important. Donc, plutôt grandes entreprises.
Des clients, d'ailleurs, vous avez le CAC 40, d'ailleurs, comme client.
Oui, on a la chance d'avoir la confiance de 80% du CAC 40 aujourd'hui, des structures telles que Engie, BNP Paribas, Saint-Gobain, et j'en passe.
1000 entreprises, hein, en tout, au total, clientes, parce que CoachUp, c'est pas une entreprise française, c'est allemand, c'est ça ?
Alors, c'est une structure d'origine allemande, effectivement, de Berlin, qui a fait le rachat d'une structure qui s'appelle MoveOne, qui était une structure française, et plus de 1500 clients aujourd'hui à travers le monde, des grandes entreprises, voilà, dont celles qu'on a pu aussi voir auparavant.
Et donc, vous avez un réseau de 3500 coachs, hein, c'est énorme. Est-ce qu'ils sont répartis en fonction de leur spécialité ? Comment on répartit en fait les coachs ?
Alors la répartition, elle est déjà de manière géographique, puisque vu qu'on accompagne des grandes entreprises à travers le monde, elles ont forcément des filiales à peu près partout et des collaborateurs qui parlent beaucoup de langues. Donc nous aujourd'hui, on est présents physiquement, en fait, les coachs sont présents dans 60 pays dans le monde et parlent plus de 90 langues. Donc c'est ça déjà, en fait, la principale répartition. Elle est géographique. Ensuite, il y a bien évidemment des coachs qui ont des préférences en matière d'accompagnement. On peut avoir ceux qui ont préféré accompagner la partie accompagnement du leadership au féminin, par exemple, développement du leadership ou autre.
Il y a un travail de votre part de former aussi ces coachs pour qu'ils répondent le mieux possible aux attentes des entreprises qui vont être vos clientes.
Alors, c'est une excellente question. Nous, on ne forme pas les coachs à être des bons coachs. Nous, on les accompagne à être des meilleurs coachs en digital, dans la mesure où tout se fait via une plateforme digitale. Nous, là où on les renforce, c'est sur la capacité à créer une relation à travers un écran.
Et quelles compétences il faut alors pour ces coachs ? Ils ont quoi comme bagage, comme expérience, comme parcours ?
Alors déjà, ils ont une expérience de coach, puisque quand on accompagne des grandes entreprises, on est très regardé sur déjà les certifications. Donc nous, on ne travaille qu'avec des coachs qui sont certifiés de l'ICF ou de l'EMCC, qui sont les deux grandes fédérations de coaching. Et ensuite, on vérifie qu'ils ont bien à minima 500 heures de coaching derrière eux pour pouvoir travailler avec nous. Ouais.
Bon, vous prenez encore des nouveaux clients là, parce que 1500, vous nous disiez, c'est ça ?
Ouais.
Il y a de la place encore ?
Il y a encore beaucoup de place.
Vous allez recruter des coachs ?
Oui, bien sûr, on va recruter des coachs. L'idée, c'est que potentiellement, d'ici 5 années, on est environ atteint 7 à 8 000 coachs partout dans le monde.
Voilà, si on a des entreprises intéressées qui nous écoutent, j'imagine qu'après, vous leur faites un devis pour savoir combien.
Alors, on se rencontre, on parle de transformation, on parle de transformation d'enjeux business avant tout, et après, effectivement, éventuellement, on parle d'argent.
Merci beaucoup, Boris Alanik, d'être venu nous présenter cette solution dans Happy Boulot, directeur général France de CoachUp. Merci, Jeanne. On se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir tous les nouveaux épisodes dès leur sortie. Merci à Flo et Alban qui étaient avec nous en régie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, vous le savez, essayez le plus possible d'être heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.